des vies et des hommes.
Isabelle Rupin.
Allez, direction le Cambodge aujourd'hui avec Sébastien Braquet, que nous avions vu et écouté surtout pour, sur le Népal. Et puis là, on part au Cambodge pour un retour presque aux sources. Sébastien Braquet, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi je parle d'un retour aux sources ? Parce que c'est le deuxième film que vous faites sur le Cambodge.
Exactement. Pour résumer l'histoire, en fait, en 2003, j'avais 30 ans et j'ai décidé de tourner mon premier film au Cambodge.
Qui s'appelait ?
Cambodge, les clés d'un royaume. C'était une galerie de portraits en fait. Au lieu de filmer le pays, j'ai filmé les habitants. Il y avait une petite fille d'une famille très très pauvre qui apprenait la danse traditionnelle cambodgienne dans un vieux building délabré en espérant que cet apprentissage lui permettrait de changer de vie. J'avais filmé un sorcier tatoueur, un ancien Khmer Rouge qui avait lui aussi un petit peu changé sa façon de vivre et qui était devenu un tatoueur, tout simplement parce que quand il était Khmer Rouge, il avait été enrôlé de force. Et les Khmer Rouges, parfois, devaient traverser des champs de mines et ils envoyaient des enfants sur les champs de mines pour qu'elles explosent avant leur passage. Et donc, ce jeune garçon, Sarun, a vécu ça. Il n'a pas explosé sur une mine, mais parmi ses collègues, il y en avait un qui savait faire des tatouages protecteurs, des tatouages sacrés. Et donc, Sarun en a voulu un pour se protéger des mines. Et il n'a jamais sauté sur une mine. Donc, il s'est mis vraiment à croire en ce genre de choses. Et puis, de toute façon, au Cambodge, les croyances sont très fortes. Et ce qui fait qu'après cette période des Khmer Rouge, il est devenu un tatoueur, un guérisseur, d'une manière générale. Et donc, lui, je l'avais choisi parce qu'il illustrait d'abord le fait qu'il avait été un ancien Khmer Rouge enrôlé de force. Ça montre un peu la méthode des Khmer Rouges. Et puis, il illustrait aussi ce côté, la sorcellerie. Les Cambodgiens sont bouddhistes, mais ils sont restés profondément animistes, comme si le bouddhisme n'était qu'un paravent. Dès qu'on gratte un peu, on retrouve des vieilles croyances dans les esprits, l'esprit des sources, des forêts, etc.
Ils ont réussi finalement à conjuguer en fait ces religions.
Oui, et ils ne se posent pas la question comme nous, mais j'avais choisi donc Sarun parce qu'il illustrait plusieurs aspects de la vie cambodgienne, la politique, la guerre, le changement de vie après la guerre, la sorcellerie quelque part. Et j'avais comme ça choisi un certain nombre de personnages, il y en a un autre qui m'avait beaucoup plu. Là on est dans la jungle, et quand j'étais au Cambodge, fin 2004, on annonce dans les médias qu'un groupe de Tampoun, c'est une tribu du Cambodge, un groupe de Tampoun vient de sortir de la jungle après 25 ans passés dans la jungle. Je trouvais ça absolument captivant. En fait, ils avaient fui les guerres, les conflits, ils s'étaient enfoncés dans les bois et ils n'ont jamais su que les conflits s'étaient arrêtés. Et donc 25 ans après, ils sont ressortis de cette jungle. Alors évidemment, j'ai essayé de les rencontrer et eux aussi sont entrés dans ma galerie de portraits.
On reviendra peut-être un petit peu sur ces personnages. Et puis, quelques années après, vous êtes retourné au Cambodge avec votre papa. Et puis, vous avez souhaité justement revoir tous ces visages, tous ces portraits.
Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, en 2015, 12 ans après le premier tournage, il m'a suggéré qu'on parte au Cambodge ensemble, en fait, et qu'on essaie de retrouver tous ces gens. Alors vous imaginez, au Cambodge, c'est pas évident de retrouver quelqu'un qui vit dans la jungle ou dans des régions éloignées. Et au gré des rencontres, on a retrouvé pratiquement tout le monde. Et c'est très émouvant, évidemment.
Oui, et ça donne ce film donc, qui vient d'être présenté dans le cadre des conférences Altaïr.
Le sourire retrouvé. Et il y a un jeu de mots sur retrouver. Le Cambodge a retrouvé le sourire et nous avons retrouvé ces gens qui nous avaient souri. Avant, donc, dans 10 ans avant, 12 ans avant.
Justement, sur le fait que le Cambodge a retrouvé le sourire, peut-être qu'il faut qu'on révise un petit peu nos bases d'histoire. Parce que le Cambodge a une vie particulièrement mouvementée, même ces dernières années.
Oui, l'histoire du Cambodge est tout à fait passionnante. D'abord, elle remonte 2000 ans avant nous. Donc, c'est là où apparaissent les premières traces de civilisation au Cambodge, avec le Funan. Puis ensuite, il y a l'époque glorieuse d'Angkor, avec ses temples extraordinaires. Mais qui est une époque pleine de combats. Le Cambodge était déjà entouré par des pays avec qui les relations n'étaient pas toujours faciles. Et donc il y a eu de très nombreuses guerres, même autrefois. Et ensuite il y a eu un grand déclin. Quand la Thaïlande est devenue un pays puissant, et de l'autre côté le Vietnam. Le Cambodge a commencé, lui, à s'effondrer. Le Cambodge est la première civilisation à être apparue là-bas. Et donc, il y a eu une période sombre où l'histoire du Cambodge est en plein déclin. Et finalement, ça va se terminer avec la colonisation, tout simplement. En 1864, le Cambodge devient un protectorat français. Ce n'est pas une colonie, c'est un protectorat. Il y a quelques nuances. Et il va le rester à peu près pratiquement un siècle. Et donc, les Français ont eu, à partir de ce moment-là, un rôle... puisqu'ils vont renforcer une des familles aristocratiques qui va détenir le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours un roi au Cambodge qui parle parfaitement français d'ailleurs, qui a vécu à Paris pendant des années, qui était professeur de danse à Paris. Mais je pense que ce que vous voulez dire, c'est surtout la guerre du Vietnam et l'époque des Khmers rouges. C'est là que le Cambodge vraiment connaît le martyr, j'ai envie de dire. En fait, les Cambodgiens ont obtenu l'indépendance sans aucun conflit, sans aucun combat, en 1953. Les rapports avec la France ont d'abord été excellents, ils sont restés très bons pendant longtemps, puis il y a eu cette guerre du Vietnam, les Français sont partis, les Américains ont pris la suite avec leur méthode, et là ça a entraîné toute l'Indochine dans un conflit absolument atroce, absolument atroce. Et alors les Khmers rouges...
Pardon, petite précision, le peuple cambodgien est Khmer.
Oui.
Un Khmer, c'est vraiment leur nationalité, enfin je ne sais pas comment on peut dire.
Ce sont des synonymes absolus, cambodgien ou Khmer, c'est la même chose. Et donc les Khmers rouges, les communistes maoïstes Khmers vont prendre le pouvoir et ils vont, la première décision qu'ils vont prendre, c'est de vider Phnom Penh, la capitale.
C'est incroyable, alors ça c'est Pol Pot qui avait décidé ça, et pourquoi ?
On a du mal à vraiment comprendre la raison, sauf qu'ils avaient peur, un, d'être attaqués trop facilement par les Américains. Il faut comprendre qu'il y avait une guérilla. Les Khmers rouges étaient les spécialistes de la guérilla, donc la jungle leur convenait mieux. Ils avaient peur aussi de ne pas pouvoir vraiment gérer une ville aussi grande, la ravitailler, parce qu'avec les réfugiés, il y avait 2 millions de personnes dans Phnom Penh. Donc ça fait beaucoup de monde à ravitailler, etc. Donc, ils avaient peur des bombardements américains également. Donc ils ont décidé... aussi pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire déraciner totalement les gens, et notamment la bourgeoisie. C'est vraiment des communistes très durs. Tout ce qui leur apparaissait un peu bourgeois, il fallait changer la vie de tous ces gens. Et donc, en les arrachant à leur ville, à leur maison, et en les envoyant dans les bois, dans les champs, etc., on était sûr de les déraciner, de les déstabiliser psychologiquement. Alors, pour toutes ces raisons, ils ont fait cela. Ils ont provoqué la désertion de Phnom Penh. Immédiatement, la même journée de la prise de Phnom Penh, ils vont commencer ce grand exode. Et en quelques jours, Phnom Penh est absolument vide. Une ville immense, totalement vidée de ses habitants. C'est un grand cauchemar. Mais le cauchemar ne faisait que commencer, puisque les pauvres Cambodgiens ont été envoyés dans des camps de travail. Les Khmers rouges avaient inventé, en théorie, un système dans lequel tout le monde devait redevenir un paysan, tout le monde devait savoir planter du riz, etc.
Ah oui,
c'est tout à fait comparable. Et donc, mais tout ça n'était que théorique, c'est-à-dire qu'ils ont cassé les champs traditionnels qui avaient des formes un peu particulières dues à l'histoire. Et puis là, ils ont voulu faire des grands champs avec des grands systèmes d'irrigation, ils ont voulu faire des grands barrages, mais sans l'aide des Occidentaux et des gens qui avaient un peu d'expérience. On a demandé à des gens qui n'avaient aucune expérience de bâtir des barrages qui n'ont pas tenu, même pas une saison. Et donc, au bout d'une année, il y a eu une famine colossale qui régnait. Ils avaient transformé un peuple. Les paysans ne devaient plus être paysans et les bourgeois ne devaient plus être bourgeois. Et personne n'arrivait à faire son travail, finalement, tout simplement. Et ça a créé une famine immédiatement, quasiment. Et ce pauvre pays a beaucoup souffert. Mais c'était que le début des problèmes. Alors, je m'appesantis un peu sur cet aspect, mais... il y a eu aussi le problème des mines antipersonnelles. Lorsque les Vietnamiens ont commencé à attaquer les Khmers rouges, eh bien, les Khmers rouges, pour se protéger, pour empêcher l'avancée des Vietnamiens, plaçaient des mines antipersonnelles. Les Américains avaient fait la même chose, d'ailleurs, avant. Je ne mets pas tout sur le dos des communistes. Les Américains, qui ne sont pas communistes, ont fait des horreurs aussi, et des erreurs.
Au nom de l'éradication du communisme, même, d'ailleurs.
Oui, en plus, oui, tout à fait. Et ce pays se retrouvait comme ça, couvert de mines antipersonnelles. Il y a eu des morts à cause de la famine, à cause des mauvais traitements, toutes ces mines antipersonnelles.
Ouais, des exactions, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi.
Il y a eu beaucoup, beaucoup de grandes violences. Et dans ces cas-là, Il y a des violences dues à la guerre, à la politique, et puis il y a aussi tout simplement des vengeances personnelles, comme la libération en France. On a réglé des comptes. Bref, ce pauvre pays s'est retrouvé devenir un pays martyr, largement bombardé par les Américains avant la prise de pouvoir par les Khmers Rouges, maltraité par les Khmers Rouges, puis ensuite il y a eu l'invasion vietnamienne, là aussi qui a été très dure pour la population cambodgienne, et finalement, ce n'est que depuis les accords de paix signés à Paris en 1992 que les choses ont commencé à s'améliorer. Puis le retour du roi, le roi Sihanouk, qui est devenu un symbole de stabilité. Quand il est revenu au pouvoir, c'est là vraiment que ça pèse toutes ces années de troubles. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un miracle cambodgien. C'est-à-dire que depuis que la paix est revenue, c'est un pays qui se développe à une vitesse folle. Ils ont commencé par refaire les routes. Quand j'y allais au début, c'était des pistes, mais terribles.
On le voit dans votre film, on se demande comment vous ne vous êtes pas embourbé. Effectivement, et c'est impressionnant. À un moment, il y a une moto et on voit effectivement là, le passager qui disparaît dans un trou, en fait. Puis non, en fait, la moto remonte, c'est assez incroyable. Donc ça, c'est un petit peu du passé.
Oui. La communauté internationale a donné beaucoup d'argent au Cambodge pour le développement et ça a commencé par les routes. Alors au départ, il y avait un peu d'argent qui disparaissait, il faut bien le dire. Et puis les Américains ont tapé du poing sur la table. Ils ont dit, on vous a donné des milliards, maintenant on veut voir les routes. Et ça a changé beaucoup de choses. Et puis, il y a eu un petit conflit avec la Thaïlande à propos d'un temple qu'on appelle le Preahvir, qui est à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge et qui est revendiqué par les deux pays. Donc il y a eu un petit conflit autour de 2010. Et là, ce genre de choses, ça accélère les processus. Pour envoyer l'armée dans le nord-est, on a fini les routes. Elles sont larges pour faire passer plein de camions, de soldats, etc. Mais finalement, le conflit n'a pas duré, il a avorté, on n'en parle plus du tout pour l'instant. Mais les routes, elles, sont toujours là. Et ce qui fait que toute la région du nord-est s'est développée aussi très très vite. Elle était très très en retard. Et donc, depuis, j'allais dire, une dizaine d'années, le PIB du Cambodge augmente entre 8 et 15% par an, ce qui est colossal. Et ça n'arrête pas.
Alors effectivement, le paysage du Cambodge change complètement. En même temps, on peut peut-être, et ça vous le soulignez un petit peu, avoir un petit peu d'interrogation par rapport à l'occidentalisation peut-être, et notamment à la culture de l'EVA qui brûle tout sur son passage. Et c'est au propre comme au figuré finalement.
Oui, depuis assez longtemps, depuis le temps des colonies, on sait que l'EVA est un arbre qui peut rapporter beaucoup d'argent. Les premières plantations au Cambodge ont été créées d'ailleurs par les Français. Mais on s'est vite aperçu qu'il y avait des jungles qu'on pouvait réduire et agrandir les champs d'EVA. Et c'est ce qui se passe maintenant. Il y a des industriels qui ont vu l'aubaine qu'il y avait là. Et donc des entreprises comme Goodyear, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise aussi de qui facilite la destruction de la jungle pour créer de nouveaux champs d'EVA. Et ça change complètement tout. Par exemple, dans ces jungles où vivaient des tribus, alors elles vivaient d'une manière très traditionnelle, très archaïque, et bien voilà, les champs les ont rattrapés. Et maintenant, ils sont employés dans des entreprises. Alors maintenant, ils manipulent de l'argent, ils doivent respecter des horaires, etc. Leur forêt a disparu. Et en très peu de temps, les membres de ces tribus ont une vie très occidentalisée qui n'est plus du tout celle qu'ils ont vécue jusqu'à aujourd'hui. Et alors, on peut s'interroger, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On ne saura, on ne peut pas le savoir et puis on ne peut pas le dire à leur place.
Ouais, c'est sans doute effectivement la marche du temps, mais parfois ça vaut le coup aussi de se poser des questions, de s'arrêter un petit peu et de se dire, bon, est-ce que... En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas moyen de faire marche en arrière. Et vous disiez quand même que le Cambodge, c'est... énormément développé. On va parler, Sébastien Braquet, de religion, parce que dans ce film, le Cambodge, le sourire retrouvé, il est forcément beaucoup question de religion, puisque 96% de la population est bouddhiste, je crois.
Oui, le bouddhisme domine en termes de religion. Bon, il y a quelques chrétiens, il y a des musulmans, les Chams notamment, une population de là-bas, mais ouais, ils sont quasiment tous bouddhistes maintenant. Et ça, ça date du Moyen-Âge. Pendant longtemps, le Cambodge était un pays où les dieux de l'hindouisme étaient vénérés. Ils avaient été colonisés par les Indiens et donc ils pratiquaient l'hindouisme. Puis ça s'est interrompu vers le XIVe siècle. Il y a eu des combats assez théologiques, certes, mais parfois assez violents entre les hindouistes et les bouddhistes. Mais en 1431, lorsqu'on abandonne encore, une nouvelle dynastie va prendre le pouvoir. Et là, ils deviennent bouddhistes, ils deviennent tous bouddhistes et ils le sont toujours aujourd'hui.
Alors justement, on vous parlait d'Angkor, hein. On va quand même en dire un petit mot, hein, sur Angkor et puis tous ces temples, hein, et ces temples que l'on retrouve aujourd'hui grâce ou à cause, hein, justement de la culture de l'EVA qui permet de défricher finalement.
Et oui, on fait encore des découvertes archéologiques au Cambodge et il faut dire que c'était une civilisation très avancée et les dynasties avaient une drôle d'habitude, c'était de changer de capitale assez régulièrement. Souvent, au bout de deux ou trois générations, le roi crée une nouvelle capitale. Alors, pas toujours très loin de la précédente, mais ce qui fait qu'on a comme ça plusieurs centres. Le temple d'Angkor, par exemple, ça commence au Rulos. Alors, ceux qui connaissent le Cambodge savent que c'est au sud des temples d'Angkor. Puis ensuite, ça va. En fait, ça commence exactement sur le Phnom Kulen. C'est une petite montagne qui a été transformée en une sorte de temple. La montagne a été sculptée, gravée, pour devenir la capitale de Jayawarman II, celui qui va fonder la dynastie d'Angkor. Puis ensuite, elle va se déplacer au Rulos, on est à une trentaine de kilomètres. Après deux ou trois rois, elle va aller pratiquement là où on trouve les temples d'Angkor aujourd'hui, avant de se déplacer vers Koké, de revenir. Et donc, on trouve des traces archéologiques partout dans le pays, le long du Mékong, dans le nord, dans le sud, partout, même dans des grottes. Hein. Vous avez vu dans le film, je montre certains petits temples qui sont au fond de cavernes obscures.
On ne peut pas parler de tous ces temples, hein, qu'on a vus dans le film. On va peut-être, hein, dire un petit mot comme sur certains de ces portraits que vous avez retrouvés. Et notamment, par exemple, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, hein, l'ancien Khmer rouge enrôlé de force, hein, qui était devenu tatoueur. Et c'est vrai que là aussi, ces techniques ont évolué et c'est tant mieux.
Oui, parce qu'au début, il vivait dans un endroit assez pauvre, assez désertique. Et il avait constitué son matériel pour tatouer. Comme il pouvait, donc il avait...
Pardon, là on est en 2003-2004.
Oui, voilà, quand je l'ai filmé la première fois, c'était en 2003. Là, notre brave sorcier, il s'est fait une petite lance et il avait récupéré la pointe d'une intraveineuse dans un hôpital militaire, une vieille aiguille trouée, rouillée, enfin bon. Et il avait installé ça au bout d'une petite lance en plastique avec du scotch. Et quant à l'encre, il utilisait de l'encre qu'on met dans les stylos, hein. Ça se passait dans la cour de sa ferme, entre les cochons et les poules. Et alors, quand je l'ai retrouvé quelques années plus tard, il commençait à devenir assez célèbre au Cambodge, finalement. Et il avait pu s'acheter une petite machine à tatouer électrique.
Mais du coup, c'était presque décevant de le voir. Ils n'avaient plus le même charme.
Ah, effectivement, ça faisait moins sorcier de campagne.
Un petit mot sur cette famille, hein, qui a passé 27, 23 ans en pleine jungle. Ça aussi, c'est quand même hallucinant.
Oui, mais ce n'est pas les seuls. Il y a eu des tas de groupes ethniques qui ont été en fait les jouets des grands stratèges politiques. Par exemple, les Khmers Rouges, on parle d'eux finalement. En 1962, ils commencent à s'entraîner dans la jungle, car le roi Sihanouk interdit le communisme. Donc, les communistes fuient Phnom Penh, fuient les grandes villes, ils vont installer des camps au fond des jungles et commencer à s'entraîner à la guérilla. Ils vont rejoindre pour survivre les tribus très simples, des gens très simples qui vivent dans ces forêts et ils vont un petit peu les embrigader, évidemment. Souvent, les membres de ces tribus ont été envoyés en première ligne alors qu'ils n'y connaissaient rien en politique, en idéologie politique, en économie, rien.
Et qu'ils ne demandaient rien à personne, ils vivaient très simplement...
Qu'ils ne demandaient absolument rien à personne, tout à fait. Quand ils ont commencé à prendre conscience qu'ils étaient manipulés de tous les côtés, eh bien, ils se sont enfoncés dans les bois, tout simplement. Du jour au lendemain, ils ont disparu. Et comme ils n'avaient aucun moyen d'obtenir des nouvelles, et donc ils ont erré comme ça pendant des années, jusqu'en fin 2004 pour ce groupe. Hein. On entend parler parfois de ces histoires, les fameux Japonais dans les...
Oui, mais on n'y croit qu'à moitié quand même.
Oui.
Là, vous les avez vus et entendus de vos propres yeux, de vos propres oreilles.
Oui, voilà. Et au départ, d'ailleurs, la nouvelle a été annoncée, et puis après, on les a un peu cachés, parce qu'on ne les a en fait pas très très bien traités dans les hôpitaux de ces régions... qui sont vraiment des régions très pauvres, on s'en est pas très bien occupé. Et puis surtout, ils ont contracté des maladies qu'ils ne connaissaient pas dans les bois. Et la plupart de ces pauvres gens qui ont survécu des années dans la jungle sont morts en quelques semaines lorsqu'ils ont rejoint les hôpitaux.
On va être obligé de se limiter dans ce qu'on a à dire. Je voudrais juste qu'on fasse un comparatif entre la tombe de Pol Pot et les funérailles de Norodom Sihanouk.
Sihanouk, qui est l'homme politique... le plus emblématique du Cambodge.
Apprécié.
et apprécié, oui, par beaucoup en tout cas, est vraiment un personnage hors du commun. C'était d'abord un prince qui a été choisi en 1941, par le régime de Vichy d'ailleurs, pour être le roi, parce qu'il pensait qu'il était malléable, qu'il pourrait l'utiliser assez facilement. Et puis Norodom Sihanouk s'est avéré un roi assez fantasque, plus malin que ce qu'on imaginait, plus ambitieux aussi, ce qui fait qu'il a réussi à chasser les Français en 1953. D'abord, il a abdiqué pour son père, c'est très compliqué. Il devient roi, il abdique pour son père parce que Norodom Sihanouk veut faire de la politique. Or, au Cambodge, le roi ne peut pas gouverner. Il règne, mais il n'est pas le chef du gouvernement. Et lui, il veut faire de la politique. Donc, il abdique, il devient Premier ministre. Et il crée un parti qui va être évidemment très populaire. Et il va commencer une croisade pour l'indépendance et les Français vont le raccorder. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. En 1953, le Cambodge est libre. Alors évidemment, Norodom Sihanouk devient le héros pour tout le monde. Et puis, il va s'accrocher au pouvoir. Ça va un petit peu mal tourner parce que l'usure du pouvoir fait qu'à un moment, ce n'est plus possible. Par exemple, quand il y a eu ces grands mouvements qui allaient entraîner le communisme, Norodom Sihanouk s'est montré très dur en interdisant le communisme, en emprisonnant les communistes, etc. Donc, quelque part, il a entraîné le durcissement des Rouges. Et finalement, il a été renversé par un coup d'État, d'ailleurs par un de ses cousins, Lon Nol, qui était appuyé par les Américains. Et les Américains ont toujours nié avoir participé à ce coup d'État. C'est un mensonge énorme parce que, en fait, les Américains avaient besoin du Cambodge pour installer des bases et continuer la guerre au Vietnam. Et puis, ils ont bombardé massivement. Il faut dire que les Vietnamiens aussi passaient par le Cambodge pour attaquer les Américains. Le Cambodge était devenu le cœur de la guerre. Et puis donc, Sihanouk a été renversé. Il est devenu le président des Khmers Rouges. Il était évidemment manipulé par les Khmers Rouges, par Pol Pot, qui voulait utiliser sa popularité en fait. Mais Sihanouk, lui, s'était dit, je vais rester avec eux parce que moi, je vais protéger mon peuple. C'était son idée.
Ouais, c'était louable.
Quelque part, oui.
Très utopique.
Oui, voilà, mais on ne sait plus où est la limite entre l'ambition personnelle, l'amour pour son peuple, la stratégie, enfin, c'est assez complexe. Bref, finalement, les accords de Paris vont être signés, présence de Norodom Sihanouk, et quelques temps plus tard, après un référendum, Sihanouk va redevenir le roi du Cambodge. Et quand je suis arrivé la première fois au Cambodge, il venait de redevenir roi. Et c'était très drôle parce que d'abord il parle très bien français, c'était un roi qui avait beaucoup d'humour. Et puis il avait une émission de télévision parce qu'il adorait chanter, danser, et notamment les vieilles chansons françaises. Et il y avait une émission au Cambodge, à la télé, toutes les semaines, et Sihanouk, leur roi, interprétait les vieilles chansons françaises, la Java bleue, ou je ne sais
c'est
pas.
C'est très improbable.
Eh oui, 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 on aurait dit Jacques Martin. Même s'il a eu un rôle ambigu à plusieurs époques de sa vie, il était quand même très apprécié des Cambodgiens et il était l'image du Cambodge quelque part. Et donc, à sa mort, il y a eu un très grand deuil national, évidemment. Et dans le film, je montre les obsèques, les funérailles plutôt de...
100 jours après le décès, c'est la règle.
Voilà, exactement, 100 jours après son décès. Et c'était des funérailles grandioses. Une immense parade dans toute la ville, plein de drapeaux, des oriflammes, des gens habillés dans des costumes d'époque, les danseuses sacrées étaient là, il y avait tous les ministres, enfin, c'était énorme, vraiment magnifique. Et puis ça se terminait quelques jours après par la crémation. Et comme vous disiez, là on est très très loin de l'histoire de Pol Pot. Car Pol Pot, qui a été longtemps le chef secret des Khmers Rouges, n'a pas du tout connu une fin aussi glorieuse. Les derniers chefs Khmers Rouges se sont réunis et ont organisé le procès de Pol Pot. Il n'a pas eu de défenseur. Il n'a pas dit un mot pendant son procès. D'ailleurs, c'était totalement à charge. Et Pol Pot a été enfermé à l'issue de ce procès. Il était condamné à être enfermé dans une prison. Et lorsque l'armée républicaine a commencé à approcher l'endroit où il était retenu, eh bien, comme par magie, comme par enchantement, il est mort. Je pense que là aussi,
Il a été aidé.
Je pense que le destin a été aidé. Et pour pas qu'on retrouve le corps, pour pas qu'il y ait d'endroit pour se recueillir et pour se débarrasser de tout.
Pour honorer sa mémoire, parce que c'était un risque aussi, que les Khmers Rouges honorent sa mémoire.
Voilà, et pour éviter cela, il a été brûlé sur un tas de pneus et de matelas absolument minables, Anh Long Veng, l'endroit où tout ça s'est passé. Eh bien, il y a une tombe, c'est même pas une tombe, c'est un... comment on pourrait appeler ça ?
Un carré de...
Ouais, un carré de cendres. C'est là où t'es brûlé Pol Pot, et je sais que beaucoup de gens sont venus pour essayer de retrouver des reliques, des morceaux d'os, de dents, des choses comme ça. C'est sordide. Il n'y a pas plus opposé que le destin de Pol Pot et de Sihanouk. Alors, ça se voit bien dans la fin de leur vie, ça c'est sûr.
C'est pour ça que c'était intéressant finalement peut-être de terminer là-dessus, puisqu'il faut bien terminer, hein, Sébastien Braquet, même si on aurait pu parler encore de beaucoup de choses. Merci beaucoup pour ce voyage, hein, Sébastien Braquet. Et puis, nos auditeurs peuvent toujours vous retrouver sur le site internet, il vous reste quelques DVD. Et
oui, effectivement, grâce à Altaïr, on peut communiquer avec moi, ça sera toujours avec plaisir.
Grâce à Altaïr qui vous a fait venir aujourd'hui. Et on va faire un petit passage aussi sur la prochaine projection qui est proposée par Altaïr sur l'Antarctique.
Oui, alors là, c'est un très très beau rendez-vous, un film fascinant. Vous allez découvrir des choses sur l'Antarctique que vous ignorez totalement. Et ce sera donc mes confrères et consoeurs Luc Desnoyers et Solène Desbois qui viendront présenter ce film le 7 mars. Et c'est un très très beau rendez-vous de voyage, d'évasion, de découverte, d'aventure. Vraiment, là, on est dans la droite ligne de ce que veut faire Altaïr. Ne ratez pas ce rendez-vous.
Grand, grand merci, Sébastien Braquet. Et puis donc, rendez-vous à nos auditeurs le 7 avril au Cinéville à 14h30 pour une aventure dans le Grand Nord. Merci.
Merci à vous.